VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a appelé aujourd'hui la communauté internationale à la solidarité et à la générosité pour aider au relèvement de son pays ruiné par la guerre à l'ouverture d'une conférence de donateurs à Bruxelles en Belgique. Il a présenté un plan de redressement chiffré à 3,1 milliards de dollars sur 5 ans, dont 1,6 milliard les 3 premières années, espérant que les donateurs s'engagent à ce niveau à ses côtés. Mais le montant des promesses de dons attendues dans la journée semblait incertain, la Centrafrique ne figurant plus parmi les priorités diplomatiques du moment. Le Gambien Yahya Jammeh a appelé à une élection libre à l'ouverture de la campagne pour le scrutin du 1er décembre, alors que des organisations de droits de l'homme s'inquiétaient d'une série d'interpellations de journalistes. Human Rights Watch, qui a mis en doute l'équité du scrutin en raison de la répression de l'opposition, a dénoncé mercredi les récentes arrestations de journalistes. Le procès pour crime contre l'humanité de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qui avait refusé de comparaître, va se poursuivre sans elle et avec des avocats commis d'office, a décidé hier le président de la cour d'assises, le juge Boaki Kouadio. La prochaine audience aura lieu le 28 novembre. Maître Rodrigue Dadier, l'un des avocats de Simone Gbagbo, explique les raisons pour lesquelles sa cliente ne comparaîtra pas.
Aoussou Jeannot et les autres ont organisé la marche dite pacifique du RHDP, oui, où Aoussou reconnaît avoir fait former avec le RHDP 300 jeunes qui ne sont pas des femmelettes, ont été bien formés à la guérilla urbaine pour semer le trouble à Abidjan, dont notamment la marche de la STI. Donc on lui demande de venir s'expliquer. Guillaume Soro qui donne les ordres à ses forces armées, forces nouvelles, de prendre leurs équipements de combat pour venir en participer à la marche. De l'autre côté, le directeur général de la police sous M. Laurent Gbagbo et l'actuel directeur général de la police sous M. Ouattara. Et c'est lui qui a désigné ces éléments de police pour sécuriser la marche. Et ce sont eux qui sont accusés d'avoir tiré sur les manifestants sur ordre de Mme Gbagbo selon la justice ivoirienne. Donc on veut que la direction générale de la police soit entendue pour nous répondre sur le fait qu'elle a effectivement tiré, dans quelles conditions et qui lui a donné les ordres. Ces acteurs-là, c'est la même chose en ce qui concerne Abobo, la marche des femmes d'Abobo où on accuse la police et la gendarmerie d'avoir tiré. Nous demandons donc au commandant du corps commando d'Abobo, qui était M. Ouattara Obiénéré, de venir comparaître pour savoir s'ils ont effectivement tiré. Nous demandons au général Kassaraté, qui est le commandant supérieur de la gendarmerie, de venir comparaître pour nous expliquer ce qui s'est passé là-bas. Nous demandons à M. Philippe Mongou, qui était le chef d'état-major, de venir comparaître pour nous dire ce qui s'est passé. Mais de deux qui nous disent qu'il leur aurait donné des ordres. Parce que Mme Gbagbo n'étant pas militaire, elle ne peut pas donner des ordres à l'armée. Et les ordres dans l'armée et la police en Côte d'Ivoire sont des ordres qui sont écrits. Donc,
Maître Rodrigue Djadjé, avocat de Mme Gbagbo. Au Tchad, le ministre de la Sécurité publique, Ahmad Mahamat Bachi, a interdit le meeting de l'opposition prévu aujourd'hui. Une interdiction sans aucune motivation, selon l'opposition, qui n'entend pas baisser les bras. Saleh Kebzabo, le coordonnateur du front de l'opposition pour l'alternance et le changement, la Fondac dénonce le harcèlement du pouvoir de Déby.
Le président Déby est enfermé dans sa tour. Il est enfermé dans sa bulle, il est devenu inaudible à tout ce qui se passe autour de lui, il ne voit pas ce qui se passe dans son pays, il n'est au courant de rien, il est dans une tour d'ivoire, il voit le Tchad d'en haut, pour lui le Tchad est un pays qui se porte très bien, où les gens vivent en sécurité, mangent à leur faim, sont dans le bonheur absolu, alors que c'est tout à fait le contraire, il ne sait pas du tout ce qui se passe dans son pays, c'est pour cela qu'il refuse le dialogue, il croit que lui seul a raison, il peut avoir raison de tout le monde, c'est ce qu'il pense. Il a un demi-dieu, c'est ce qu'il pense. Et je crois que les événements qui sont en train de se précipiter dans le pays vont lui donner tort. Dans la région de Mandoul, par exemple, il y a eu des massacres de population. Dans la région de Kélo aussi, il y a eu des affrontements. Donc ces situations-là sont en train de s'amplifier dans le pays progressivement. Il a tout intérêt, je pense, à entrer en dialogue avec l'opposition.
L'opposant tchadien Saleh Kebzabo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, un programme populiste, pèse sur la course présidentielle en France et nourrit les tensions entre les prétendants à l'investiture de droite face à une extrême droite remontée à bloc. Le sujet Trump sera immanquablement abordé ce soir lors du dernier débat télévisé entre les 7 candidats à la primaire de droite avant le premier tour du scrutin prévu dimanche. L'enjeu de cette primaire est de taille, de l'avis des sondeurs. Le champion désigné de la droite devrait remporter l'élection présidentielle au second tour en mai 2017 face à la présidente du Front national, Marine Le Pen. Les deux favoris, l'ex-premier ministre Alain Juppé et l'ex-président Nicolas Sarkozy, se présentent chacun comme le meilleur recours face à l'extrême droite, mais avec des stratégies radicalement opposées. Barack Obama et Angela Merkel se retrouvent aujourd'hui à Berlin pour une rencontre en forme de passage de témoins au moment où la chancelière allemande se voit attribuer un rôle de porte-étendard des valeurs démocratiques dans le monde suite à l'élection de Donald Trump. Au lendemain d'un discours en forme de testament politique à Athènes, où il a livré un plaidoyer pour la démocratie et une mondialisation socialement plus juste, le président américain va insister à Berlin, deuxième et dernière étape de sa tournée d'adieu européenne, sur les valeurs communes à l'Europe et aux États-Unis. Selon des responsables de la Maison-Blanche, il devrait également tenter d'apaiser les craintes concernant l'avenir du partenariat transatlantique, alors que son successeur élu proclame agir selon le principe de « America first », l'Amérique d'abord. On revient en Afrique, sur le continent, les fans du football féminin convergent vers le Cameroun, où débute samedi l'édition 2016 de la Coupe d'Afrique des Nations des Dames. Toutefois, se rendre au match ne sera pas facile, du moins à Yaoundé, la capitale, où 45 chauffeurs de la compagnie de transport urbain ont été interpellés hier pour être allés en grève. Reportage à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, récit Anastasie Toudiech.
Déjà difficile en temps normal, la circulation à Yaoundé a été paralysée hier par les chauffeurs de la compagnie Le Bus. Ils ont garé leur véhicule en travers des principales artères, du jamais vu pour les milliers d'automobilistes pris au piège et qui ne savaient plus où se diriger. À Tangana, Anselme tentait d'emmener ses enfants à l'école.
Nous sommes là depuis 1h45. Le niveau de l'économie du Cameroun sera suffisamment touché avec cet environnement. Avec tout ça, les enfants arrivent à l'école à quelle heure ? Vous-même, vous voyez, vraiment, c'est vraiment très gênant.
L'homme d'affaires Fouda Anatole a garé sa voiture en bordure de route pour faire le reste du chemin à pied.
Vraiment, mes chers frères, regardez, depuis la 1h30, on est sur l'embouteillage, là, rien que des mobiles pour traverser, ça ne va pas. Donc il faut quand même essayer de faire quelque chose pour nous. Le grand de devant, là, demandez-le. Par le fait, les compagnons que nous, le bas, ça ne va pas, de nous de faire changer.
Aucune trace des chauffeurs de la compagnie Le Bus. Après avoir bloqué les rues, ils ont disparu dans la nature pendant une bonne partie de la matinée. Leur grief, selon le président de leur syndicat Amougou Onana, 20 mois de salaire et d'avantages sociaux non payés. Pas question de transporter les spectateurs de la CAN féminine 2016 tant que ces arriérés n'auront pas été épongés.
Le PM a écrit une lettre, il a donné des instructions au ministère des Finances en disant qu'on doit nous payer les droits et les arriérés de salaire et les frais sociaux avant le début de la CAN féminine 2016. Hier, il y a eu une réunion au ministère des Finances auquel tous les ministères concernés étaient assis pour parler de notre problème. C'est là où il en sort que celui qui précédait la réunion, qui représentait le ministère des Finances, a bloqué la situation en disant qu'on ne peut pas nous payer si on ne paye pas les impôts, les frais de douane. C'est déjà trop. On a déjà trop supporté. Vous voyez, aujourd'hui, nos collègues dorment ici depuis 8 mois.
La réaction des autorités ne s'est pas faite attendre. 45 sur les 125 chauffeurs de la compagnie Le Bus ont été interpellés. Selon les médias publics, une réunion de crise a été convoquée. C'est un souci de plus pour le gouvernement après le retard accusé par les travaux de construction des infrastructures de la CAN féminine. Malgré tout, le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, a assuré que le Cameroun est prêt pour le tournoi.
Ça ne peut qu'être un bon événement, c'est-à-dire les infrastructures sportives et l'affluence dans les stades. Tout ceci doit être chapeauté par la classe de l'équipe. Le gouvernement camerounais a fait le maximum de ce qu'on peut faire. Les infrastructures sont là, le Cameroun a dégagé tous les moyens.
Initialement prévue du 8 au 22 octobre, la CAN 2016 du football féminin a été reportée à la période allant du 19 novembre au 3 décembre, un report dicté par les conditions météorologiques au Cameroun.
Et les rebelles du Yémen ont arrêté, torturé et fait disparaître de force de nombreux opposants depuis qu'ils ont pris le contrôle de la capitale Sanaa il y a plus de 2 ans. C'est ce qu'a affirmé en tout cas l'organisation Human Rights Watch sur les centaines de cas de détention arbitraire signalés par des groupes yéménites depuis septembre 2014. Human Rights Watch dit avoir répertorié 2 morts en détention et 11 cas de torture présumés ou de mauvais traitements. Et puis le président centrafricain Archange Touadéra a appelé jeudi la communauté internationale à la solidarité, à la générosité pour aider au relèvement de son pays ruiné par la guerre. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal dans 50 minutes en compagnie de Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.